février, M. Weston et sa femme, M. Wakefield et sa femme, ainsi que M. Nathan, notre directeur régional de l'Europe et de l'Afrique, mon fils, M. Scott Winnell, ainsi que M. Ellis et sa femme, ont organisé une conférence panafricaine. C'était la première fois, je crois, depuis des décennies, que le dirigeant de l'Église du Dieu vivant ait pu visiter l'Afrique. M. Armstrong était allé au Kenya, je crois. Mais pourquoi allons-nous au Kenya? Le Kenya est une plaque tournante de l'Afrique de l'Est, et c'est une plaque tournante pour les voyages aériens aussi. Le Kenya était une colonie britannique, et beaucoup de gens parlent anglais, et sont de soi-disant chrétiens. Ils ont eu une conférence ministérielle là-bas d'environ 3 ou 4 jours. C'était l'occasion de se réunir avec tous les ministres d'Afrique. Nous avons environ 300 membres au Kenya et quelques centaines de membres supplémentaires dans d'autres parties de l'Afrique. Nous avons des pays francophones ainsi que des ministres francophones, et ils étaient présents à la conférence. Mais pendant que tout cela se passait là-bas, j'ai entendu le dicton « Va vers l'ouest, jeune homme ». Je suis donc parti dans une autre direction. Je me suis rendu en Californie, où j'ai rencontré nos frères à Pasadena. Nous sommes passés près de l'ancien campus de Pasadena et il a été englouti par des condominiums à 3 étages, si bien qu'on le voit à peine. Nous avons aussi vu les zones brûlées de Altadena, et nous vivions à Pasadena autrefois. Mais beaucoup de choses se sont produites. Nous avons eu une assemblée de sabbat, puis nous avons eu un souper, un potluck, et nous avions 100 de personnes. J'ai fait le sermon et ensuite une étude biblique sur l'identité d'Israël. Puis j'ai pris l'avion pour Tokyo et Manille, et j'ai rencontré M. Rob Tyler à Manille. Nous avons eu une conférence de 5 jours avec les ministres à Manille. Nous avons eu une assemblée de sabbat avec 100 de personnes qui étaient très heureuses d'être ensemble, comme une mini-fête des tabernacles. Nous avons pris l'avion de nouveau avec M. Tyler, cette fois, pour l'Australie, et nous avons rencontré nos dirigeants là-bas. Le format du voyage est à peu près toujours le même. Nous avions une conférence d'un ou deux jours avec les ministres. Nous déjeunions avec eux, nous dînions avec eux, nous soupions avec eux. C'était juste une occasion de faire connaissance, suivie d'une assemblée de sabbat. Nous avons donc pris un vol de Manille vers l'Australie, et de là, je pense que nous étions à Brisbane avec les ministres. Quelques réunions avec eux, puis à Adélaïde, où se trouve le bureau régional. Nous avons eu une conférence de quelques jours, puis nous avons pris l'avion pour Perth, du côté ouest du continent. Ensuite, traversé de l'océan Indien jusqu'à Johannesburg, en Afrique du Sud, où nous avons eu une conférence et nous avons visité le nouveau bureau là-bas, puis jusqu'au Royaume-Uni, où nous avons fait à peu près la même chose. Je pense qu'une semaine après mon retour, j'étais à Atlanta. Ce n'est pas que j'essaie de fuir, mais c'était juste que nous avons eu un service combiné là-bas. M. Glenn Harrison a déménagé et il travaille avec M. Dan Hall dans la région d'Atlanta. Ensuite, pour les jours des pains sans levain, il y a eu une assemblée combinée à Houston où nous avons célébré la Pâque, le sabbat et le premier jour saint. Puis, j'ai pu écouter l'un de nos nouveaux jeunes ministres faire un sermon. C'était très bien. Puis j'ai pris l'avion pour Phoenix, où j'ai fait une étude biblique qui s'est bien déroulée. Puis un vol jusqu'à la côte ouest, et je suis allé à Sacramento et j'ai visité notre congrégation là-bas pour l'autre jour saint. Et j'ai entendu un autre de nos nouveaux ministres faire un très bon sermon, et finalement je suis revenu à la maison. Je voulais juste partager avec vous ce que nous sommes en mesure de faire aujourd'hui. Vous voudrez peut-être regarder à l'arrière de vos Bibles quand vous rentrerez chez vous et regarder les voyages missionnaires que Paul et Barnabas ont faits. La plupart de ces voyages se sont limités à l'est de la Méditerranée. Paul est allé jusqu'en Grande-Bretagne, d'autres sont allés dans d'autres endroits, et ils ont voyagé par bateau. Dans de nombreux cas, il leur fallait des jours pour arriver là où ils allaient. Paul a fait naufrage en se rendant à Rome, et il a passé du temps dans l'eau quand le bateau a coulé. Il fut aussi lapidé dans l'un des endroits où il s'est rendu. J'aimerais que vous vous reportiez à Actes chapitre 14, versets 21 et 22, pendant que nous parlons. Parce que ces versets décrivent les voyages missionnaires de Paul. Mais regardez ce que nous pouvons faire aujourd'hui. M. Weston et M. Wakefield on prit l'avion pour Londres, puis pour Nairobi. Ils ont fait le trajet en 2 jours environ avec un vol de nuit. Vous savez, lorsque j'ai quitté Pasadena, en fait Los Angeles, j'ai mis environ 11 heures pour me rendre à Tokyo, puis encore 8 ou 9 heures pour me rendre à Manille, puis de Manille jusqu'à l'Australie, c'était environ 7 ou 8 heures. Nous pouvons voyager littéralement dans le monde entier pour rencontrer le peuple de Dieu. Pour rencontrer le peuple de Dieu, remarquez dans Acte 14, il s'agit du premier voyage missionnaire de Paul et de Barnabas. Ils ont commencé à l'extrémité orientale de la Méditerranée. Ils sont allés dans le sud de l'Asie mineure, qui est l'actuelle Turquie. Puis ils ont fait un circuit à travers 3 églises là, où Paul a été lapidé et laissé pour mort. Mais il a continué à avancer. Mais pourquoi ont-ils fait cela? Acte 14, verset 21. Le verset 21. Quand ils eurent évangélisé cette ville, c'est Derbe qui est mentionné ici, et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche. Ils ont repassé dans les villes où ils avaient eu des difficultés, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Ceci est ce que nous essayons de faire au cours de ces voyages, de renforcer les frères, de prêcher les mêmes choses que nous avons prêchées depuis 30, 40 ou 50 ans, de fortifier les frères et de leur dire « Écoutez, nous devons rester concentrés, nous devons faire l'œuvre. » C'est donc à peu près ce que nous faisons lors de ces voyages. Nous vous demandons de prier pour ces voyages et celles-ci sont très appréciées. J'ai fait 10 de vols, 20 de décollages et d'atterrissages. Nous tenons ces choses pour acquises. Mais vous savez, il y a eu un accident récemment. Je crois que c'était un avion de Delta qui volait vers Détroit ou quelque part dans la neige, et il s'est retourné. Les gens étaient attachés par leur ceinture de sécurité et ont essayé de se détacher alors qu'ils étaient à l'envers. Nous prenons ces choses pour acquises. L'autre jour, un avion décollait, je crois que c'était un American Airlines, et un lapin s'est retrouvé aspiré dans l'un des réacteurs. L'avion a décollé et des flammes sortaient du moteur. Ils ont dû faire demi-tour et atterrir d'urgence. Ce sont des choses qui arrivent aujourd'hui. Un autre avion qui arrivait à Washington, D.C. est entré en collision avec un hélicoptère de l'armée. J'ai fait 20 décollages et atterrissages que nous ne pouvons pas prendre pour acquis aujourd'hui, et vos prières sont les bienvenues et vraiment appréciées. J'ai fait le tour du monde sans manquer un vol, sans vol retardé. Les décollages et les atterrissages se sont déroulés en toute sécurité. Vos prières sont vraiment appréciées pour ces détails. Nous avons aussi des ministres qui prennent l'avion pour faire des conférences du monde de demain. Et il y a beaucoup de choses qui se passent, même si vous ne nous voyez peut-être pas. Nous venons d'achever les jours des pains sans levain, au cours desquels il fut demandé aux Israélites d'enlever le levain et de manger des pains sans levain pendant 7 jours. Ce levain symbolise le péché. Et c'est ce que nous lisons dans Exode chapitre 12. Dans ce chapitre d'Exode 12, il fut également dit aux Israélites de faire cela de génération en génération, comme une ordonnance perpétuelle. Il s'agit de le faire pour toujours. C'est pourquoi nous le faisons aujourd'hui. Dans 1 Corinthiens 11, versets 23 à 30, Paul mentionne que les jours des pains sans levain sont une période de sérieux examen de soi, un temps de sérieux examen de soi. Nous avons maintenant dépassé les jours des pains sans levain, mais cela ne veut pas dire que nous oublions de nous examiner nous-mêmes. Nous devons le faire périodiquement, tout au long de l'année. J'aimerais donc poursuivre ce thème de l'examen de soi aujourd'hui et parler d'autre chose. Pour commencer, je vais vous poser 3 questions. J'aimerais que vous y réfléchissiez, car vous avez déjà entendu ces questions. La première question est « Pourquoi êtes-vous ici? » Au fil des années, nous avons plaisanté à ce sujet. Nous sommes ici parce que nous ne sommes pas tous là. Mais je veux que vous y réfléchissiez. Pourquoi êtes-vous ici? Pourriez-vous noter dans vos notes 3 ou 4 raisons pour lesquelles vous êtes ici et pas ailleurs? La question suivante est « Savez-vous pourquoi vous êtes ici? » Et la troisième question est la suivante « Savez-vous pourquoi, vraiment pourquoi vous êtes ici? » Je ne plaisante pas. Je ne plaisante pas, nous devons réfléchir à ces questions, ce sont des questions importantes. Si vous ne comprenez pas pourquoi vous êtes ici, vous ne le resterez peut-être plus très longtemps. Parce que des choses vont se produire dans votre vie, dans le monde. Mais j'aimerais que vous fassiez une liste à un moment donné. Pourquoi êtes-vous ici? Quelles sont les raisons pour lesquelles vous êtes ici? Vous pouvez dire, je n'ai jamais été ailleurs, c'est pour ça que je suis ici. Ou bien, mes amis sont ici. Ou encore, ma famille est ici et mes parents remarqueraient mon absence. En fait, M. Strain pourrait remarquer si vous n'étiez pas là non plus, et d'autres personnes. Mais pourquoi êtes-vous ici? Je me souviens d'avoir parlé avec un individu qui fréquentait un autre groupe. Il a commencé à venir avec nous et puis il a dit, « Je pense que je vais revenir. Vous avez des sièges plus souples que ceux que j'avais jusqu'à présent. Vous avez un meilleur système de climatisation. Ici, il fait plutôt froid. Mais pourquoi êtes-vous ici? » Certains ont dit, « Vous vous réunissez l'après-midi et je ne suis pas du matin. Je vais donc me réunir avec vous. » Mais pourquoi êtes-vous ici? Je voudrais que vous y réfléchissiez. Vous savez, je suis impliqué dans l'Église de Dieu depuis environ 60 ans. J'ai enseigné au collège que nous avions à Pasadena pendant une dizaine d'années. J'étais sur le terrain pendant une quinzaine d'années. J'enseignais au collège que nous avions au Texas pendant 3, 4 ou 5 ans. Je suis ici à Charlotte depuis près de 20 ans. Cela ne semble pas être le cas, mais ce l'est. Mais j'ai vu beaucoup de gens venir et partir. Et certains d'entre vous sont là depuis des années et vous avez vu la même chose. Pourquoi les gens partent-ils? Pourquoi les gens partent-ils? M. Armstrong est mort en 1986, il y a environ 40 ans. À sa mort, des changements ont été introduits. De nouvelles doctrines ont été introduites. Certaines personnes furent désillusionnées lorsqu'elles virent partir des ministres qui disaient « Ne partez jamais ». Mais ils l'ont fait. Certaines personnes ont été désillusionnées. Certains ont commencé à douter lorsqu'on leur a dit « L'Église a tort sur ceci, l'Église a tort sur cela » et ils sont donc partis. Certaines personnes avaient un emploi à Pasadena, ils travaillaient pour l'Église en Angleterre, ils travaillaient pour l'Église à Big Sandy. Lorsque les collèges ont été fermés, certains se sont simplement éloignés. Je dois trouver un autre emploi. Ils s'occupaient d'autres choses, des affaires familiales et ainsi de suite. Mais ils avaient leur raison de partir. Ce que j'ai remarqué au fil des ans, c'est que beaucoup ont oublié ou ne se sont pas souvenus ou n'ont pas compris pourquoi ils étaient ici. Ils ont oublié, ils n'ont pas compris, ne se sont pas souvenus de la raison pour laquelle ils étaient ici. Vous savez, ce que nous voyons aujourd'hui, c'est des gens qui reviennent à l'Église après s'être éloignés pendant 20 ou 30 ans. Et ils reviennent avec des raisons. Ils sont revenus pour des raisons. La question que je pose donc est la suivante. Pourquoi êtes-vous ici? Savez-vous pourquoi vous êtes ici? Savez-vous vraiment pourquoi vous êtes ici? Ce que je veux faire dans le sermon d'aujourd'hui, qui s'intitule « Pourquoi êtes-vous ici? » c'est de vous donner sept raisons d'être ici. Je veux vous donner sept raisons d'être ici. Je veux vous montrer comment vous vous intégrez dans le plan de Dieu d'une manière très spéciale, qui vous concerne vraiment, afin que vous sachiez pourquoi vous êtes ici. En outre, pour prendre des notes, je vous encourage à noter les Écritures que nous allons couvrir et à les relire par la suite. Notez les Écritures et regardez-les plus tard. Notez-les. N'essayez pas de comprendre tous les mots. Notez les Écritures et relisez-les quand vous rentrerez chez vous, le jour même ou dans les prochaines 24 heures, et relisez les notes. Et vous pourrez vous souvenir de certaines choses que vous avez entendues et qui iront dans le même sens. Pour ces sept raisons que je veux passer en revue avec vous, Jésus l'a dit dans Matthieu 24, que seuls ceux qui persévèrent jusqu'à la fin seront sauvés et entreront dans le royaume de Dieu. Seuls ceux qui persévèrent jusqu'à la fin seront sauvés et entreront dans le royaume de Dieu. Encore une fois, nous avons vu beaucoup de gens s'éloigner au fil des ans. Et comme l'a dit une personne, en fait un ministre, l'Église universelle de Dieu a été une phase de ma vie. Et je suis passé à une autre phase. J'espère que cela ne correspond à aucun d'entre nous ici. Mais c'est arrivé. Et c'est arrivé. Nous devons persévérer jusqu'à la fin. Par contre, pour persévérer, nous devons savoir pourquoi nous sommes ici. Nous devons savoir quelle sera notre récompense si nous restons dans l'Église de Dieu. Rapportons-nous à Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7, car il s'agit d'un avertissement que Jésus-Christ a donné à ses disciples en regardant vers l'avenir. Cela fait partie du sermon sur la montagne. Matthieu chapitre 7, à partir du verset 21. Verset 21, Jésus regardait vers l'avenir et il dit, verset 21, « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, ou je crois en Dieu, je crois en Jésus-Christ, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Dans la vidéo que nous avons vue, nous venons d'entendre parler du vrai christianisme. Et Jésus a dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Ce sont des choses que nous devons faire si nous voulons être dans le royaume de Dieu. Verset 21, « Ceux qui me disent, « Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui ou celle qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, au retour de Christ, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas fait des sermons ou des sermonnettes? N'avons-nous pas garé des voitures à la fête? N'avons-nous pas installé ou démonté des chaises? N'avons-nous pas fait toutes ces choses? » Verset 23, « Alors je leur dirai ouvertement ce que je vais leur dire. Je ne vous ai jamais connus. Nous n'avons jamais été sur la même longueur d'onde. Nous n'étions jamais sur la même longueur d'onde. Tu ne me parlais pas beaucoup, tu étais trop occupé, tu n'as jamais étudié le livre que je t'ai donné, tu ne l'as pas intériorisé. » Vous savez, nous parlons de choses sérieuses. Nous parlons de choses sérieuses. Il poursuit au verset 24, « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Si nous construisons notre maison sur une compréhension solide des Écritures, encore une fois, comme nous l'avons entendu dans la vidéo, si nous examinons les choses, si nous l'éprouvons, nous resterons dans l'Église, si nous construisons sur des bases solides. Mais si nous ne sommes là que parce que c'est un endroit agréable, ou pour les collations après l'Assemblée à différents endroits, ce ne sont pas de bonnes raisons pour lesquelles nous sommes ici. Nous avons eu une conférence du monde de demain, je crois que c'était à Cape Town, en Afrique du Sud, c'était un jour férié, et nous étions dans un centre communautaire et nous avions de la nourriture à l'intérieur, juste devant les grandes fenêtres de l'auditorium. Des gens passaient devant et entraient en disant « Pouvons-nous avoir un peu de cette nourriture? » Ils vivaient dans le quartier. Mais ce ne sont pas des raisons pour être ici. Ce ne sont pas les raisons d'être ici. Ainsi, tous ceux qui me disent ou prétendent être ou professent le christianisme ne seront pas dans le royaume de Dieu. Nous devons construire sur le roc, pas sur le sable, pas sur des choses qui changent. Examinons donc ces sept raisons d'être ici. Raison numéro 1. Pourquoi êtes-vous ici? Vous n'êtes pas ici par hasard. Raison numéro 1. Vous n'êtes pas ici par hasard. Vous êtes ici sur invitation. Vous êtes ici sur invitation. Vous pourriez dire, « Eh bien, mon père et ma mère sont ici avec moi. » Eh bien, vous apprenez des choses, même si vous n'êtes pas baptisé. Vous apprenez, vous développez une perspective que vous n'obtiendrez pas ou à laquelle vous ne seriez pas exposé si vous n'étiez pas ici. Examinons quelques passages des Écritures. Jean 6, versets 44 et 65. Jean 6. Jésus parle à nouveau avec ses disciples dans Jean 6, verset 44. Jésus fait cette déclaration. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Ne l'invite. Jésus a appelé ses disciples individuellement. Il ne s'est pas contenté d'afficher un panneau et d'y inscrire « Venez tous ». Il a probablement passé 30 ans à observer des individus, à connaître leur réputation, et il les a invités individuellement. Individuellement. Vous avez été invités individuellement. Voyons le verset 65 qui résume cette section. C'est pourquoi je vous ai dit, c'est ce que je vous disais plus tôt, que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Vous avez été appelés. Vous avez reçu une invitation. Vous avez reçu une invitation. Mais remarquez le verset 66. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. En d'autres termes, les gens l'ont suivi. Il a transformé l'eau en vin lors d'un repas de noces. Il a multiplié la nourriture, les poissons et le pain. Les gens ont probablement passé un moment intéressant à le regarder faire ces choses, à le regarder faire ces différents miracles. Mais ils ne sont pas restés. Ils ne sont pas restés. Ils n'étaient pas appelés. Ils ont été exposés, mais ils n'étaient pas appelés. Vous êtes ici parce que vous avez été invités. Vous êtes ici parce que vous avez été appelés. Examinons d'autres passages. Qu'est-ce qu'un appel? Reportons-nous à Matthieu 13. Matthieu 13. Nous ne faisons que regarder les descriptions bibliques ici, les définitions bibliques. Matthieu 13 est rempli de paraboles. Mais remarquez le verset 10. Matthieu 13, verset 10, les disciples s'approchèrent et lui dirent « Pourquoi leur parles-tu en paraboles? Pourquoi racontes-tu ces petites histoires? Pourquoi ne leur dis-tu pas la vérité en pleine figure? Qu'ils la voient. Pourquoi utiliser des histoires? Pourquoi utilises-tu des paraboles? » Remarquez sa réponse. Jésus leur répondit « Parce qu'il vous a été donné. Parce qu'il vous a été donné à vous, mes disciples, de connaître les mystères du royaume des cieux. Et que cela ne leur a pas été donné. Les mystères sont le but de la vie humaine. La plupart des gens ne comprennent pas quel est le but de la vie humaine, ne comprennent pas la Bible. J'ai grandi en lisant la Bible, j'ai mémorisé quelques versets, mais je ne la comprenais pas vraiment, ou entièrement. Cette compréhension vient lorsqu'une personne est baptisée, reçoit l'Esprit de Dieu, et c'est l'Esprit de Dieu qui ouvre notre esprit à cette compréhension. Il y a des choses que nous devons faire avant que cela n'arrive. Jésus a dit « Cela vous a été donné, cela vous a été révélé. » Cette opportunité, cette capacité à comprendre la vérité. Au verset 16, remarquez ce qu'il dit. Il parle aux disciples. Il ne parle pas au monde. Et il dit, verset 16, « Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. » J'ai essayé de convertir mes parents. Vous avez probablement essayé de convertir des amis et des parents, et ils vous regardent comme si vous veniez de tomber du ciel. Vous savez, de quoi parlez-vous? Nous en reparlerons dans une minute. Dieu vous a donné la capacité de comprendre la vérité. C'est un don que vous et moi avons reçu. Il n'est pas donné au monde entier maintenant. Cela viendra plus tard. Mais remarquez au verset 17, « Puis, je vous le dis en vérité, c'est Jésus qui parle, je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. » Vous savez, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel ont écrit des choses. On a dit à Daniel, « Daniel, le livre est scellé. Ce n'est pas à toi de le comprendre maintenant. » En voyant ce qui se passe dans le monde, nous comprenons aujourd'hui des choses que Daniel n'a pas comprises. Parce que ce n'était pas le moment. Ce n'était pas le moment. Cette capacité à comprendre la vérité implique un appel. Il faut être appelé. Dieu s'apprête à vous donner son esprit pour vous aider à comprendre. Mais Jésus dit ici « Heureux vos yeux ». Le mot ici pour « heureux » est « à envier », d'être envié. Un jour, nous rencontrerons des gens que nous avons connus et ils nous diront, « Pourquoi es-tu un être spirituel et pourquoi ne le suis-je pas? » Vous devrez expliquer, Vous n'étiez pas appelé à ce moment-là. Mais maintenant, vous avez l'occasion de comprendre la vérité. C'est ainsi que Jésus a dit, verset 16, « Heureux sont vos yeux parce qu'ils voient, et vos oreilles parce qu'elles entendent. » Il parle ensuite de quatre groupes différents de personnes dans Matthieu, chapitre 13. Une autre parabole, celle du semeur. Il s'agit de quatre groupes de personnes différents. L'un d'entre eux est celui des personnes qui entendent la vérité, mais qui ne la comprennent pas vraiment. Il s'agit des personnes qui se trouvent sur le bord du chemin. Je me souviens d'un ami d'école qui vivait à Boston. Nous avons repris contact plus tard, et quelqu'un lui avait envoyé la revue anglaise de la pure vérité, alors qu'il était à l'hôpital. Et il m'a dit, « Doug, j'ai reçu un de tes magazines. Cela ne fait aucun sens pour moi. Cela n'a aucun sens pour moi. » L'un des hommes qui était avec moi au collège est parti pour l'organisation Peace Corps. J'ai fait des études supérieures pendant ce temps-là. Et nous sommes rencontrés une fois à Londres. Il est devenu banquier à New York et il m'a dit, « Doug, tu es prédicateur? » J'ai répondu, « Oui. » « Sur quoi prêches-tu? » J'ai répondu, « Je prêche et j'écris aussi des articles. À propos de quoi? » J'ai répondu sur l'Europe et sur les prophéties bibliques. Et il a dit, « As-tu quelque chose que je peux lire? » Je lui ai donc remis quelques revues anglaises du Monde de demain et je l'ai revu environ un an plus tard. J'ai dit, « Que penses-tu des revues? » Et il a dit, « Elles étaient effrayantes. Elles étaient effrayantes. » Mais il n'a pas compris. Mais nous continuons à nous parler et à nous voir de temps en temps. Et il m'a dit, « Tu prêches toujours? » J'ai répondu, « Oui. » Mais c'est sa conversation. Il n'a pas compris. Il s'intéresse aussi aux événements mondiaux, mais il ne comprend pas la perspective biblique. Ce sont des personnes sur le bord de la route. Ils entendent, mais cela ne fait aucun sens. L'autre groupe, c'est celui où la parole tombe dans les endroits pierreux, sans racines. Ils sont en quelque sorte enthousiasmés. Eh bien, c'est très intéressant, mais quelque chose survient et ils s'éloignent. Le troisième groupe est celui des personnes qui s'occupent des soucis du monde. C'est là que d'autres choses prennent de l'importance. Les soucis du monde détournent les gens de la vérité. Le dernier groupe est dans la bonne terre. Ils comprennent, leur esprit est ouvert et ils portent du fruit. Je veux être dans le royaume de Dieu. Je veux porter du fruit dans ma vie. Donc, environ 75% d'entre eux vraiment ne comprennent pas ou ne font rien avec la vérité. Le dernier groupe fait quelque chose. Reportons-nous maintenant à Jean, chapitre 15, verset 16. Et cela nous ramène au point de cette section particulière, cette raison, Jean 15, verset 16. Jésus parle à ses disciples la nuit précédant sa crucifixion. Cela nous ramène à la raison pour laquelle vous êtes ici. Jean 15, verset 16. Jésus dit à ses disciples, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Pourquoi êtes-vous ici? Parce que Dieu vous a choisi, Dieu vous a appelé. Il vous a donné à Jésus-Christ pour travailler avec lui. Et j'ai parlé à des gens, et vous avez probablement demandé à des gens, « Comment avez-vous trouvé la vérité? » Eh bien, je l'ai trouvé à la télévision, ou je l'ai trouvé sur Internet. Vous ne l'avez pas trouvé, c'est Dieu qui vous a trouvé. Dieu vous a trouvé. Vous savez, j'ai fait mes études supérieures. Je voulais enseigner à l'école de médecine, devenir médecin. J'ai passé une année là-bas. Mon frère est rentré d'Angleterre. Il avait passé un an à Bricketwood. Je me vantais de quelques livres de philosophie que j'avais achetés et il m'a dit, « Pourquoi as-tu acheté cette Camelot? » C'était mon jeune frère. « Qu'est-ce que tu sais que je ne sais pas? » Et il a dit, « C'est une bande de pervers grecs. » Qu'est-ce que c'est? Je l'ai déjà dit, mais Dieu a des moyens d'atteindre chacun d'entre nous. Il a des moyens d'atteindre chacun d'entre nous. L'appel, c'est cette capacité à comprendre la vérité. Ce n'est pas donné à tout le monde en ce moment. Jésus a dit très clairement, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. » Maintenant, vous devez prendre des décisions. Si vous commencez à comprendre la vérité, vous devez passer à l'action. Vous savez, il y a un passage de l'Écriture, je crois que c'est dans Luc 12, verset 48, qui dit « On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné. Je vous ai fait comprendre la vérité, je t'ai appelé dans le corps de Jésus-Christ, l'Église. Alors il s'attend à ce que nous produisions du fruit. Nous ne sommes pas simplement ici pour la camaraderie. Nous sommes ici pour nous préparer à la venue du royaume de Dieu, pour nous préparer à régner avec Jésus-Christ sur cette terre. Si vous avez suivi l'actualité aujourd'hui, vous verrez que les gens se battent, se disputent, se mentent. Vous regardez comment les choses sont faites. En repensant par Denver sur le chemin du retour dimanche, je me suis arrêté à Denver pour passer un peu de temps avec deux de nos jeunes ministres et leurs familles. Une visite très encourageante. Mais nous avons aussi visité le Colorado State House, le bâtiment du Capitole à Denver. Nous avons pu jeter un coup d'œil dans la salle du Sénat et dans celle de la Chambre des représentants. Et ils étaient là, en train de se disputer. Une personne parle. La moitié des autres regardent leur téléphone portable, jouent à des jeux, parlent, etc. Il n'est pas étonnant que nos gouvernements ne fonctionnent pas très bien. Mais nous sommes arrivés au bout et nous sommes montés vers le sommet et vous vous promenez autour du dôme. Le guide qui faisait la visite a dit qu'il n'y avait que 99 marches jusqu'au sommet et je me suis dit « c'est 99 marches que je ne ferai pas ». Mais il a dit « pour ceux qui ne veulent pas monter, il y a une vidéo que vous pouvez regarder ». Dans la vidéo, il s'agissait de l'histoire du gouvernement de l'État du Colorado. C'était un scandale de corruption après l'autre, après l'autre, après l'autre et après l'autre. Alors que nous regardions, je pense que c'était la Chambre des députés, un homme faisait un discours disant « Vous savez, nous avons 75 millions de dollars dans notre budget qui devraient revenir à la population. » Et il a ajouté « Nous avons de merveilleux moyens de dissimuler de l'argent dans des budgets qui appartiennent réellement au peuple. » Il parle de corruption. Mais après avoir regardé la vidéo, cela représente l'histoire des gouvernements humains. Nous voyons la même chose aujourd'hui. Nous sommes ici pour faire partie du gouvernement de Dieu qui va être établi sur cette terre. Il sera totalement différent, mais nous devons nous y préparer. Nous devons nous préparer pour cela. Le point que je veux faire ressortir ici est la première raison. Vous n'êtes pas ici par hasard. Vous, mettez votre nom ici. Êtes ici parce que Dieu vous a appelé. Il a ouvert votre esprit pour que vous commenciez à comprendre. Comme je l'ai mentionné plus tôt, nous voyons aujourd'hui des gens revenir après s'être éloignés de l'Église pendant 20 ou 30 ans dans certains cas. Et ils reviennent avec des raisons. Ils reviennent avec des raisons. Parce qu'ils ont été de l'autre côté de la barrière. Dans de nombreux cas, il n'y a rien à l'extérieur. Cela semble tellement excitant quand on est à l'intérieur et qu'on n'est jamais sorti. Mais une fois qu'on est sorti, on se rend compte que ce n'est pas le grand monde blanc et merveilleux que l'on pensait. Vous avez été appelé, sélectionné et invité par Jésus-Christ pour une raison très spéciale. Pour une raison très spéciale. Vous avez été appelé à quitter ce monde pour faire partie de la famille de Dieu, pour régner avec Jésus-Christ dans le futur royaume de Dieu. C'est la raison numéro un. C'est la première raison. Deuxième raison. Pourquoi êtes-vous ici? Pour se repentir et être converti. Pour se repentir et être converti. Il faut se demander, suis-je converti? Nous en parlerons dans une minute. Me suis-je repenti? On ne se repent pas seulement une fois, mais nous devons avoir une attitude de repentance, être prêt à changer chaque fois que nous voyons que nous faisons quelque chose qui n'est pas juste. Quelques passages bibliques. Je ne vais que les citer, mais dans Actes 2, 38, Pierre, lorsqu'il parle le jour de la Pentecôte, disait « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé et recevez le don du Saint-Esprit. » Se repentir, se faire baptiser et recevoir le don du Saint-Esprit, il y a des choses que nous devons faire. Il ne s'agit pas simplement de dire « Je vais donner mon cœur au Seigneur et tout ira bien. » La repentance, selon le mot grec, signifie de se tourner avec tristesse. Matanaeo, matanaeo. Se tourner vers une nouvelle voie de vie, un nouveau mode de vie. Dans Actes 3, verset 19, il est dit, Actes 3, 19, « Repentez-vous et convertissez-vous. » Verset 19, encore une fois, « Repentez-vous et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés. » La majorité d'entre nous n'ont jamais tué quelqu'un ou volé des objets, mais le péché est défini dans la Bible, dans 1 Jean 3-4, comme une transgression de la loi de Dieu. Dans mon enfance, je n'ai jamais observé le sabbat, je n'ai jamais observé les jours saints, je ne comprenais pas ces choses. Pourquoi est-ce si important? Parce qu'il nous est dit dans Romains 3:23, il nous est dit « car tous ont péché ». Vous avez péché, j'ai péché. Encore une fois, beaucoup d'entre nous n'ont tué personne et n'ont rien fait de tel. Mais lorsque vous enfreignez les lois de Dieu, vous péchez. Et dans Romains 6:23, ce n'est pas difficile de s'en souvenir, Romains 6:23 dit « car le salaire du péché, c'est la mort, pour l'éternité ». Nous devons donc nous rendre compte où nous enfreignons les lois de Dieu et nous devons nous en repentir. Il a fallu la mort et les souffrances de Jésus-Christ pour payer cette pénalité pour nous. Vous savez, j'ai reçu quelques contraventions pour excès de vitesse en conduisant. C'est probablement le cas pour vous aussi. Ce serait bien si quelqu'un vienne me dire « Vous n'avez rien à payer, vous n'avez rien à faire, je paierai l'amende à votre place. » Ce serait formidable. J'ai dû en payer quelques-unes moi aussi, et cela fait mal au portefeuille. Mais ce sont nos péchés qui ont causé la mort de Jésus-Christ, afin que nous puissions être pardonnés et recevoir le don du Saint-Esprit. Vous voyez, nous devons quelque chose à Dieu dans ce sens. Mais nous sommes ici pour nous repentir et nous convertir. Nous lisons dans Lévitique 26 et Deutéronome 28 qu'il y a des bénédictions si nous obéissons à Dieu et des malédictions si nous désobéissons à Dieu. Il y a des conséquences. Certains disent, c'est dans l'Ancien Testament. Jésus l'a mentionné dans Jean 14, verset 15. Jean 14, verset 15. « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Il y a le sabbat et les jours saints. Mais il y a une dimension spirituelle que nous découvrons dans le Nouveau Testament. En tant que chrétiens, nous devons appliquer la loi spirituelle aussi bien que la loi physique. Parlons un peu de la conversion. Le mot grec epistrepho, E-P-I-S-T-R-E-P-H-O, signifie changer de direction. Changer de direction. Pour ceux qui ont grandi dans l'Église, nous espérons que vous n'aurez pas à changer radicalement de direction. Vous avez évolué dans la bonne direction. Vous devez vous concentrer sur cela et vous y engager. Et nous en reparlerons dans un instant. À quoi ressemble une personne convertie? Comment reconnaîtriez-vous une personne convertie? Paul a dit que nous devions sortir de ce monde. Sortez et séparez-vous du monde. Comment le faire? Remarquons ce que Jésus a dit à ses disciples dans Matthieu 5, 6 et 7. Si vous lisez ces passages de Matthieu 5, 6 et 7, il décrit des personnes converties. Il décrit des personnes converties, des chrétiens. Remarquez au verset 3 de Matthieu 5, il dit « Heureux, être enviés, les pauvres en esprit. » Vous mettez la main dans votre poche et il n'y a pas d'argent, vous êtes pauvre? Non, il parle d'être pauvre en esprit, ce qui signifie que vous êtes humble, que vous êtes enseignable, que vous êtes prêt à apprendre et que vous êtes prêt à changer. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Ce sont ces personnes qui vont entrer dans le royaume de Dieu. Verset 4. Heureux les affligés. Ils regardent le monde, voient le désordre dans lequel ils se trouvent, et ils prient Dieu que ton règne vienne bientôt. Ils veulent changer les choses qui font souffrir les autres. Verset 5. Heureux les humbles de cœur. Ce sont des personnes enseignables. Elles sont prêtes à apprendre, elles sont prêtes à changer. Verset 6. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Quelle est la définition de la justice? Psaume 119, verset 172 nous dit « Tous tes commandements sont justes. » Ils veulent vivre selon chaque parole de Dieu. Verset 7. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Il y a un passage intéressant dans Jacques 2, verset 13, qui dit, Jacques 2, verset 13, la miséricorde triomphe du jugement. Nous aimons juger les autres, nous le faisons automatiquement. Nous devons aussi être miséricordieux. J'ai déjà utilisé cet exemple auparavant. J'ai rendu visite à un jeune homme qui, lorsque j'enseignais et que j'étais pasteur en Géorgie, il était diplômé de l'Université de Géorgie, et il m'a dit « Je veux revenir à l'église ». Et il avait des cheveux qui lui descendaient jusqu'à la moitié du dos. Il a dit « Je vais vivre avec ma mère et mon père chez eux, et je veux revenir à l'église ». Et je lui ai dit « Tu sais, tu as grandi dans l'église. Tes cheveux sont un peu trop longs. Je pense que tu devrais te faire couper les cheveux avant de venir à l'église. » Il est revenu à l'église et il avait les cheveux coupés. Ils lui descendaient jusqu'aux épaules. Alors j'avais deux diacres à mes trousses, comme des pilotes kamikazes. Qui a laissé entrer ce type ici? Il n'a rien à faire ici. Et j'ai dit, donnez-lui une chance, il est en train de revenir. Ne le mettez pas dehors si tôt. Vous savez, nous pouvons facilement porter des jugements. Nous voulons encourager les gens, nous voulons encourager les gens. Nous sommes ici pour nous repentir. Il devait se repentir, il s'est fait couper les cheveux, il est à mi-chemin. Mais nous avons été appelés à nous repentir, à changer et à croître. Nous sommes donc ici pour nous repentir, nous convertir. Posons-nous la question, me suis-je repenti? Suis-je encore en train de me repentir? Je parlais à quelqu'un, et cela m'est revenu. Cette personne m'a dit, je me suis repenti quand j'ai été baptisé. C'est bien, excellent. Mais le repentir est un processus. La conversion est un processus. Cela prend du temps. Et Dieu ne déchire pas le rideau en disant « Voilà qui vous êtes! » Vous savez, nous serions probablement tous morts instantanément. Il tirera lentement le rideau et nous laissera voir ceci ou nous laissera voir cela, nous laissera voir ceci, afin que nous puissions travailler sur ces choses et les changer. Mais nous sommes ici pour nous convertir et nous repentir. Posons-nous à nouveau la question. Suis-je encore en train de me repentir? Suis-je converti? Suis-je de plus en plus converti? Jésus a passé 3 ans avec ses disciples et il leur a dit « Quand vous serez convertis? » Quand vous serez convertis, faites ceci ou cela. Nous pourrions passer en revue d'autres passages des Écritures, comme Matthieu 5, 48, qui nous dit de devenir parfait. Encore une fois, aucun d'entre nous n'est parfait. Le mot parfait signifie complet, spirituellement mature. C'est quelque chose que nous devrions nous efforcer d'atteindre et non pas y renoncer. Matthieu 6, 33 nous dit « Cherchez premièrement, comme la priorité majeure de votre vie. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. C'est la principale priorité de votre vie. » Ne pas chercher d'abord beaucoup d'argent, ne pas chercher d'abord une voiture, ne pas chercher d'abord tout ce que je veux, c'est écrit « Cherchez premièrement, concentrez-vous sur le royaume de Dieu. Vous voulez être là, vous voulez en faire partie, alors faites des choses qui vous orientent dans cette direction. Nous sommes donc ici pour nous repentir et nous convertir. Et cela va prendre toute une vie. Il sera utile de comprendre les avantages. Quels sont les avantages de se repentir et de changer? Quels sont les avantages de la conversion? Ce sera la vie éternelle. Vous savez, je me regarde dans le miroir, mes cheveux disparaissent, j'ai plus de rides qu'avant. Je ne peux plus me déplacer comme avant. J'ai hâte d'hériter de la vie éternelle. Je crois que j'ai déjà raconté cette blague auparavant. Un homme et une femme âgées se réveillent un matin dans leur lit et le mari se penche sur elle et la caresse en disant « Chérie, viens, réveille-toi. » Elle dit « Ne me touche pas. » « Qu'est-ce qu'il y a? Réveille-toi! Ne me touche pas! »« Pourquoi? Je suis morte. »« Comment sais-tu que tu es morte, chérie? »« Rien ne me fait mal. » Pour ceux d'entre nous qui vieillissent, ce n'est pas drôle pour les jeunes, mais pour ceux d'entre nous qui sont plus âgés, on se réveille et on se dit « Je peux encore bouger comme ça, et je peux encore bouger comme cela. » Mais il y a des avantages à apprendre à faire les choses à la manière de Dieu. Le plus grand avantage sera la vie éternelle. Un nouveau corps, la vie éternelle, à être dans le royaume de Dieu, pouvoir régner avec Jésus-Christ. Tels sont les avantages. Concentrons-nous sur ces choses et ne vous dites pas toujours « c'est trop dur de changer » ou d'autres choses de ce genre. Raison numéro 3 du pourquoi vous êtes ici. Pour être engagé. Qu'est-ce que cela signifie? Les engagés sont dans l'armée. Mais nous devons en être convaincus. Ce dont nous parlons, c'est la force de vos convictions. Quelle est la force de nos croyances? Avons-nous des convictions fortes? Des convictions sur quoi? Avez-vous de fortes convictions sur ce qui est bien et ce qui est mal? Qu'est-ce qui est bien et ce qui est mal? Ah, c'est juste une question d'opinion. Non, ce n'est pas une question d'opinion. Le bien et le mal existent. Le bien et le mal existent. Il y a ce qui est convenable et ce qui est abominable. La Bible parle de ces choses. Permettez-moi de vous donner quelques exemples. Quelle est votre opinion ou votre sentiment sur le sabbat? Devons-nous le respecter? Ou est-ce important? Qu'en est-il des jours saints? Qu'en est-il de Noël? Qu'est-ce qu'il y a de mal avec Noël? Ce sont des choses qui ont commencé à s'infiltrer dans l'Église après la mort de M. Armstrong. Eh bien, Noël, c'est l'anniversaire du Christ. Il n'y a rien de mal à célébrer son anniversaire. Il n'est pas né ce jour-là. C'est d'abord un jour païen. Eh bien, cela n'a pas d'importance. Nous croyons simplement Jésus. C'est ce qui a commencé à s'infiltrer dans l'Église. Et à moins que vous ne connaissiez les Écritures qui s'y réfèrent, sommes-nous tenus d'observer le sabbat et les jours saints? Regardez Lévitique 23. On les appelle de saintes convocations. Sainte convocation. Une convocation est une assemblée commandée. Une assemblée commandée. Lorsque j'étais au collège, nous avions une convocation tous les mercredis matins. C'était dans une école presbytérienne. Un étudiant de la classe supérieure était assis à l'avant avec un plan de la classe. Un siège vide, Doug Winnell. Si vous manquiez plus de 3 convocations, vos notes étaient diminuées d'une lettre dans chacun de vos cours. Ils étaient sérieux. Dieu veut que nous soyons ici, pour que nous puissions apprendre ensemble. Nous pouvons croître ensemble. Qu'en est-il de la Trinité? Est-ce important? Le mot n'est pas dans la Bible, et pourtant c'est une doctrine de base du christianisme moderne. Mais le mot n'est pas dans la Bible. Qu'en est-il de l'enlèvement? Il n'en est pas question. Et les Écritures utilisées ne signifient pas cela. Qu'en est-il des tatouages? Regardez mes tatouages. La Bible dit « Ne faites pas de coupures ou de tatouages sur le corps ». Eh bien, c'est de l'art corporel. Quelle est votre opinion? D'où vient-elle? Qu'en est-il des relations amoureuses? Qu'en est-il du divorce? Quelles sont vos opinions à ce sujet? Comment développer des convictions fortes? Comment y parvenir? Comment faire? 1 Thessaloniciens 5, verset 21 nous dit « Éprouvez toutes choses ou examinez toutes choses ». Si vous voulez croire en quelque chose, il faut le cibler avec précision. Qu'est-ce que la Bible dit à ce sujet? Qu'est-ce que la Bible a à dire sur ce sujet? Qu'est-ce que Dieu dit sur ce sujet? Vous étudiez, vous prouvez les doctrines. Vous avez une petite brochure, un petit document qui parle des doctrines fondamentales de l'Église Dieu vivant, les croyances fondamentales. Vous pouvez les consulter sur Internet ou en recevoir un exemplaire par la poste. Mais parcourez ces croyances fondamentales une par une et endossez-les pour vous-même. Que dit la Bible au sujet du sabbat? Que dit la Bible au sujet des jours saints? Que dit la Bible sur l'homosexualité? Je me souviens avoir donné une conférence du Monde de demain en Floride, et une adolescente est venue avec sa mère et elle m'a dit « Pourquoi êtes-vous si négatif à l'égard des homosexuels? » Et j'ai dit « Nous ne sommes pas contre les homosexuels, mais nous sommes très opposés à l'homosexualité, parce que la Bible dit que c'est une abomination. C'est une abomination. » Ce n'est pas ce que l'on entend dans les médias. Ce n'est pas ce que l'on entend dans les discussions au Sénat. Ce n'est pas ce que l'on entend dans la société d'aujourd'hui. Eh bien, vous avez des préjugés, vous êtes bigot, vous êtes ceci ou cela. Non, la Bible dit ceci. Lorsque le Christ reviendra, la loi sortira de Jérusalem. Et c'est ce que nous allons enseigner. Nous devons le comprendre et ne pas nous laisser entraîner dans d'autres choses. 1 Thessaloniciens 5, verset 21. Je vous encourage à relire la brochure « Le Dieu réel, preuve et promesse ». Dieu est-il réel et y a-t-il un Dieu? Comment le savez-vous? Quelles sont les preuves? Avez-vous eu des prières exaucées? Avez-vous vu ces choses se réaliser? Ensuite, lisez la brochure « La Bible, réalité ou fiction ». Si vous voulez suivre la Bible, vous êtes mieux de savoir si elle est inspirée par Dieu. Quelles sont les preuves? Comment le savoir? Clarifiez ces choses. Si vous voulez suivre un mode de vie, clarifiez-le. Vous voyez, nous sommes ici pour être convaincus. Développer des convictions fortes basées sur la Bible, pas sur des opinions, mais fondées sur la Bible. Avez-vous des convictions fortes? Comment les développez-vous? Nous venons d'en parler un peu. Dans 2 Timothée 2, verset 15, Paul mentionne « Dispense droitement la parole de la vérité. Étudiez les doctrines, étudiez les croyances et posez-vous la question « Serais-je prêt à abandonner mon travail à cause de cet enseignement? Serais-je prêt à mourir pour cet enseignement particulier? » Paul a été chassé de la ville lors de certaines des visites qu'il a faites. À un endroit, il a été lapidé et laissé pour mort. On l'a transporté hors de la ville et il a en quelque sorte repris vie. Il est retourné dans chacune de ses villes parce qu'il y croyait fermement. Il était convaincu de la vérité. Jésus a enseigné avec autorité. Reportons-nous à Matthieu 7, verset 28. Matthieu 7, verset 28, c'est la fin du sermon sur la montagne. Il parlait de construire sur le roc et non sur le sable. À la toute fin de ce chapitre, au verset 28, Matthieu 7, verset 28, après que Jésus eut achevé ses discours, il parlait de bâtir sur le roc et non sur le sable. La foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité. Il a parlé avec autorité, il a parlé avec conviction, et non pas comme leurs scribes et les pharisiens. Voilà ce que certains pensent, voilà ce que d'autres pensent. Il a ajouté, non, ceci est la vérité. Nous avons été appelés à devenir des enseignants dans le royaume de Dieu à venir. Ésaïe 30, versets 20 et 21. Ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus, mais tes yeux verront ceux qui t'instruisent. Voici le chemin, marchez-y. Voici le chemin, marchez-y. Voici la vérité. Voici comment élever des enfants. C'est ainsi qu'il faut observer le sabbat. C'est ainsi qu'il faut être pour être un chrétien. Nous allons enseigner aux gens comment vivre selon le mode de vie de Dieu. C'est pourquoi nous devons apprendre à le faire maintenant et être fermement convaincus de ce qu'est la vérité. C'est le troisième point. Nous sommes ici pour être convaincus. Bien que nous puissions finir en prison pour avoir prêché la vérité, mais nous devons développer des convictions fortes et pas seulement des concepts vagues. La quatrième raison d'être ici est de développer l'esprit et le caractère de Jésus-Christ. Nous sommes ici pour développer l'esprit, pour penser comme Jésus-Christ. Nous lisons cela dans le livre. Et le caractère agir, fonctionner, penser comme Jésus-Christ. Dans Philippiens 2, verset 5. Philippiens 2, verset 5, Paul mentionne ceci. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Les sentiments ou l'esprit de Jésus-Christ soit en vous. Nous devons penser et agir comme le ferait Jésus-Christ. Vous allez dans ces librairies religieuses, vous pouvez acheter des petits bracelets où il est écrit QFJAMP. Que ferait Jésus à ma place? Comment réagirait-il à cette situation? Quels sont les conseils qu'il donna dans les Écritures pour faire face à cette situation? C'est ainsi que nous devons apprendre à penser. Non pas parce que quelqu'un s'acharne sur vous. Vous pensez de cette façon ou vous allez vous faire tuer. Non, nous pensons de cette façon volontairement, parce que nous voulons la récompense qui va venir, pas parce que quelqu'un nous dit ce que nous devons faire. Cette attitude imprègne notre société. Personne ne me dira ce que je dois faire. Qu'en est-il de Dieu? Qu'en est-il de Jésus-Christ? Peuvent-ils vous dire ce que vous devez faire? ce qu'ils feront, c'est vous donner les lignes directrices. Ensuite, nous devons prendre nos décisions personnellement. Vais-je suivre cela? Vais-je faire cela? Il nous a créés comme des êtres humains moralement libres de choisir. Ésaïe 55, s'il vous plaît. Ésaïe 55, versets 6 à 8. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, car mes pensées ne sont pas vos pensées, au verset 8, et vos voix ne sont pas mes voix. Ésaïe 55, versets 6 à 8. Nous devons apprendre à penser comme Dieu, afin de faire partie de sa famille et de fonctionner au sein de celle-ci. 2 Corinthiens 6, versets 17 et 18. 2 Corinthiens 6, versets 17 et 18. Paul dit aux Corinthiens, « Sortez du milieu de ce monde. » Et ce monde est comme une grande chambre d'aspiration qui essaie de nous aspirer tous. Nous devons en sortir. Quand j'étais petit, je suis allé me baigner dans l'océan au New Jersey, probablement vers 10 ou 11 ans. Je suis arrivé à un endroit où je pouvais enfoncer mes orteils, mais il y avait un courant de fond. J'essayais donc de revenir à la nage. J'enfonçais mes orteils à chaque fois que le ressac revenait et je me débattais et je ne voulais pas l'admettre. Un homme me regardait et il m'a dit, « Petit, as-tu des ennuis? » « Non! Je sais ce que je fais. » Il a finalement tendu sa main et a attrapé mon bras parce que j'étais attiré vers la mer. Heureusement, quelqu'un était là. Mais le monde est ainsi fait, il nous attire et nous devons nager contre lui. Parfois, nous avons besoin d'aide. Parfois, nous avons besoin d'aide pour nous ramener en arrière. 2 Corinthiens 5, verset 20 nous dit, « Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Nous sommes ici pour être une lumière dans le monde, pour montrer au monde qu'il existe une meilleure voie. Nous devons être convaincus qu'il y a une meilleure voie et que cette voie est en train de venir. Comment développer l'Esprit de Dieu et de Jésus-Christ? En étudiant la parole, en étudiant la Bible. Vous savez, Jésus a mentionné dans Jean chapitre 6, et nous avons examiné ce chapitre, mais Jésus disait, « Personne ne peut venir à moi s'il n'est pas appelé. » Il dit aussi au verset 34, « Je suis le pain de vie. Je suis le pain de vie. » Ensuite, au verset 54, « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. » En d'autres termes, vous devez intérioriser ce que j'ai écrit dans ma parole. Vous devez l'intérioriser et en faire une partie de vous. Je pense que beaucoup d'entre vous s'efforcent de le faire. Nous devons étudier la Bible et prier régulièrement afin de renouveler l'esprit que Dieu nous donne lorsque nous sommes baptisés. Un autre verset à garder l'esprit, 2 Corinthiens 4, verset 16, 2 Corinthiens 4, verset 16, où il est dit « Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Nous devons prendre le temps de prier et d'étudier, parce que si nous ne le faisons pas, nous fonctionnons sur les vapeurs de l'esprit. Vous savez, j'ai parfois observé l'aiguille d'essence dans ma voiture. Elle descend jusqu'au vide, et elle ne peut pas aller plus loin sur des vapeurs d'essence. Lorsqu'il n'y a plus de carburant dans le réservoir, elle s'arrête. Combien de fois avons-nous essayé de fonctionner avec des vapeurs de l'esprit? Nous sommes tous trop occupés pour faire ceci, trop occupés pour faire cela. Nous devons prendre le temps de le faire. Nous devons nous nourrir de Jésus-Christ. Nous devons nous nourrir de sa parole. Que cherche Dieu en chacun de nous? Vous savez, dans le psaume 119, vous pourrez lire tout le psaume, mais David est appelé un homme selon le cœur de Dieu. C'est ce que Dieu recherche en chacun de nous. Vous lisez le psaume 119 où David dit « Enseigne-moi, montre-moi, aide-moi à comprendre. » Il était capable d'apprendre et il attendait ces choses de Dieu. Dans psaume 119, verset 97, David dit, psaume 119, 97, « Combien j'aime ta loi. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. J'y réfléchis. » Pourquoi avons-nous certains problèmes dans la société? Réfléchissez. Quels sont les principes bibliques qui ne sont pas respectés? Si vous ne suivez pas ces principes, il y aura des conséquences. Si vous devez résoudre des problèmes, quels sont les principes bibliques que vous utiliserez pour résoudre ces problèmes? Vous pouvez commencer à vous y préparer dès aujourd'hui. Nous sommes donc ici pour développer l'esprit et le caractère de Jésus-Christ. Nous le faisons en étudiant sa parole. Cinquièmement, pourquoi sommes-nous ici? Pour nous préparer à jouer un rôle dans le royaume de Dieu à venir. Nous ne sommes pas simplement appelés à rester assis et à regarder, nous sommes appelés à nous préparer à jouer un rôle dans le royaume de Dieu à venir. Et Jésus-Christ reviendra pour sauver le monde. Jean 4, verset 42. Il nous est dit dans Actes 3, verset 19 à 21, qu'il y aura un rétablissement des vraies valeurs. C'est ce qui se prépare. Ainsi, lorsque nous étudions les vraies valeurs, nous recherchons la manière dont Dieu fait les choses, nous nous préparons à l'avènement du royaume de Dieu. Comme je l'ai mentionné précédemment, les gens verront leurs enseignants dans le futur royaume de Dieu, Ésaïe 30, versets 20 et 21. Et ces enseignants diront, « C'est comme ça qu'il faut faire les choses. » En adoptant la perspective du président Trump, nous pourrions envisager de procéder ainsi, « Hé, poussez-vous de là! Nous allons le faire de cette façon. » Non, nous travaillerons avec les gens. Il y a une meilleure façon de le faire. Vous créez de l'anticipation. Quelle meilleure façon? Voici la voie. Au lieu de les frapper à la tête avec un bâton, nous devrons convaincre les gens et leur montrer. Vous pouvez le faire de cette manière, mais regardez ce qui va se passer d'ici un an. Puis, un an plus tard, vous avez vu ce qui s'est passé? Tu comprends pourquoi? Vous reliez les points? Essayons quelque chose d'autre cette année. Nous allons devoir apprendre à travailler avec les gens, à nous préparer à jouer un rôle. Que vont faire les enseignants? Ésaïe 2, versets 3 à 4. Afin qu'il nous enseigne ses voies. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole éternelle. Nous allons enseigner au monde les lois de Dieu au sujet du sabbat. Le sabbat est bénéfique. Vous faites une pause tous les 7 jours. Il vous permet de vous détendre, d'adorer, de vous rapprocher de Dieu, de rester concentré sur Dieu. Aujourd'hui, le monde ne connaît pas le chemin de la paix. C'est ce que nous disent les Écritures. Mais on nous dit aussi dans Ésaïe 59, que la paix vient de l'obéissance aux lois de Dieu. La paix vient de l'obéissance aux lois de Dieu. Pas en construisant une armée plus forte. Ce n'est pas en mettant sur pied une grande armée. Elle vient en suivant les lois de Dieu. Cela va sembler bizarre aux gens. Mais nous allons leur montrer que c'est ainsi que les choses fonctionnent. Nous sommes donc ici pour nous préparer à jouer un rôle dans le royaume de Dieu à venir. Posez-vous la question, qu'aimeriez-vous faire dans le royaume de Dieu? Une dame à qui je parlais récemment m'a dit, « Je n'y ai jamais pensé. Je suis occupée à organiser les choses. Mais qu'aimeriez-vous faire dans le royaume de Dieu? Qu'aimeriez-vous changer? Par où voudriez-vous commencer? » J'aimerais commencer par une île dans les Caraïbes. Certaines choses y sont tellement évidentes que quelques changements pourraient faire une grande différence. Mais qu'aimeriez-vous faire? Que pourriez-vous préparer maintenant à faire qui sera utile dans le royaume de Dieu à venir? Réfléchissez-y. Priez à ce sujet. Dieu, tu m'as appelé. Tu m'as invité. Que veux-tu faire de moi? Je peux faire ceci, je peux faire cela, je peux faire ceci, j'ai ce potentiel. Comment puis-je être utile à Dieu? Nous devons nous préparer, préparez-vous. Numéro 6, pourquoi êtes-vous ici? Nous sommes ici pour apprendre à travailler en équipe. Nous sommes ici pour apprendre à travailler en équipe. Jésus a appelé 12 hommes d'horizons très divers. Certains étaient des activistes, d'autres étaient des pêcheurs, l'un était un collecteur d'impôts, et un autre était un rebelle. Mais il a appelé un groupe diversifié de personnes, et il a dit « Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Je vous donne une mission et je veux que vous la remplissiez. Accomplissez cette mission. Nous avons une mission dans l'Église du Dieu vivant. » L'identité d'Israël est l'une des choses dont certains groupes se sont débarrassés. Ce n'est pas important, c'était l'idée de M. Armstrong. Comment aller vers les brebis perdues de la maison d'Israël si l'on ne sait pas où elles sont ou qui elles sont? Vous ne pouvez pas remplir votre mission si vous n'allez pas vers la maison d'Israël. L'une des études bibliques que j'ai données au cours de ce voyage, dans un certain nombre d'endroits différents, portait sur les preuves d'où sont situées les nations d'Israël aujourd'hui. Ce n'est pas quelque chose à se débarrasser. C'est une clé pour comprendre les prophéties bibliques. Nous devons avertir le monde de ce qui va arriver, de ce qui va se produire. Et notre travail est d'être une sentinelle, Ézéchiel 3 et Ézéchiel 33, pour expliquer ce qui arrivera bientôt. Il nous est également dit dans Ésaïe 58, verset 1, « Crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. C'est ce qui s'en vient, et cela ne va pas plaire aux gens. Vous voyez, nous sommes ici pour accomplir cette mission, pour travailler en équipe pour y parvenir. Il nous faut une équipe pour faire ce que nous faisons aujourd'hui. » Raison numéro 7 ou 7e raison? Pourquoi nous sommes ici? Nous sommes ici pour laisser Dieu nous façonner, afin que nous intégrions sa famille. Nous sommes ici pour nous laisser façonner par Dieu, afin que nous nous intégrions dans sa famille. Permettez-moi de vous citer quelques passages bibliques de Psaume 33. Psaume 33, versets 13 à 15, mentionne « Dieu nous façonne et nous façonne à travers les expériences. Il nous façonne et nous prépare. » Ésaïe 64, verset 7, dit « Dieu est le potier, nous sommes l'argile. Nous sommes l'œuvre de ses mains. Il se peut que vous demandiez à Dieu « Pourquoi as-tu laissé cela se produire? » Et sa réponse serait « Parce que tu n'es pas encore prêt. » Tu n'es pas encore prêt, tu as besoin d'être modelé et façonné. Oui, mais cela fait mal. Eh bien, accroche-toi. Persévère jusqu'à la fin. Je te façonne pour que tu sois un joyau, pour être un bijou, pour t'intégrer dans ma famille. » Dans Jean 14, versets 1 à 3, Jésus parle à ses disciples la nuit précédant sa crucifixion, et il dit, Jean 14, verset 2, « Je vais vous préparer une place. Je vais vous préparer une place. Je t'ai appelé, je te façonne et te modèle, et quand tu seras ressuscité, il y aura une place pour toi. » C'est comme si les gens qui quittent l'Église disaient « Et alors? C'est pas important. Vous avez été appelés à un appel très spécial, dans un but très spécial. » 1 Corinthiens 12, verset 18. 1 Corinthiens 12, verset 18. Il est dit « Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu. Il nous a appelés, il nous façonne et il nous place dans le corps comme il lui plaît. » Je me souviens quand je suis entré dans l'église, il y avait deux jeunes couples qui fréquentaient la même congrégation. Et il y avait un jeune couple, le mari distribuait des cigares chaque fois que sa femme avait un bébé. Il disait « Je serai ministre l'année prochaine à cette même époque, vous verrez. » 12 mois plus tard, il n'était plus dans l'église. Il ne comprenait pas que Dieu nous place dans le corps comme il l'entend. Il nous laissera dans une certaine situation jusqu'à ce que nous apprenions certaines leçons. Permettez-moi de conclure. Nous avons parlé de 7 raisons pour lesquelles vous êtes ici. Je vous encourage à rentrer chez vous et à noter les 7 raisons qui vous sont propres. J'espère que vous inclurez ces 7 raisons que nous avons vues. Parce que les gens qui sont partis, dans bien des cas, ont oublié pourquoi ils étaient ici. Peut-être n'ont-ils jamais su pourquoi ils étaient ici. Vous savez, l'Ambassadeur Collège est un endroit très agréable, de belles pelouses, toutes sortes d'activités. Tout le monde croyait la même chose, faisait la même chose, ils allaient tous à l'église le même jour, le jour du sabbat. Mais au moins la moitié de ces personnes ont disparu. Un certain nombre de ces personnes étaient mes étudiants, mes collègues. Et ils se sont éloignés de l'église. Comme l'a dit un ministre, l'Église universelle de Dieu a été une phase de ma vie. Maintenant, je suis passé à une autre. Un de ces jours, il y aura un réveil qui fera réfléchir. Ce réveil qui donne à réfléchir, nous le lisons dans Matthieu 7, Matthieu 7, verset 21. Ceux qui disent « Seigneur, Seigneur, je suis passé par l'ambassadeur collège, j'allais à la fête. » Tous ceux qui disent cela ou qui voient cela n'entreront pas tous dans le royaume des cieux parce qu'ils ont oublié, ils se sont égarés. Résumons très rapidement les raisons. Premièrement, vous n'êtes pas ici par hasard. Vous êtes ici parce que Dieu vous y invite et il vous donne une compréhension. Deuxièmement, nous sommes ici pour nous repentir et nous convertir. Ce sera le travail de toute une vie, se repentir et se convertir. Troisièmement, être convaincu, être fermement convaincu de ce qui est juste, de ce qui est faux, de ce qui est biblique et de ce qui ne l'est pas. Quatrièmement, développer l'esprit et le caractère de Dieu afin que nous puissions faire partie de sa famille. Nous pourrons ainsi régner avec Jésus-Christ dans le futur royaume de Dieu. Cinquièmement, se préparer à jouer un rôle dans le royaume de Dieu à venir, afin de pouvoir servir les autres. Sixièmement, travailler en équipe. Il faut une équipe pour produire les émissions de télévision. Il faut une équipe pour préparer les conférences du monde de demain. Il faut une équipe pour publier les revues. Et le septième, nous sommes ici pour permettre à Dieu de nous façonner, de nous modeler et de nous préparer à occuper les postes, les places que Jésus-Christ nous attribuera lors de la résurrection. Frères et sœurs, vous avez été appelés spécialement par Dieu à faire partie de sa famille pour éventuellement changer le monde. Cela semble être une idée vaste et nébuleuse, mais c'est ce qui est en train de se produire, et c'est pour cela que vous êtes ici. Réfléchissez donc aux questions que nous avons posées au tout début. Pourquoi êtes-vous ici? Savez-vous pourquoi vous êtes ici? Savez-vous vraiment pourquoi vous êtes ici?